ensemble.
8h30, 9h30.
Et il faut beaucoup de temps pour apprendre les ses fautes sur l'orchestre.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, vous avez écouté donc Karajan, le grand Karajan, de l'enchaîner donc sur Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte. Alors, il y a deux périodes. D'abord, bon, vous savez que la Pavane, je ne vous l'apprends pas sur l'antenne de Radio Classique, c'est une danse lente, nostalgique du 16e et du 17e siècle. Beaucoup de compositeurs, d'ailleurs, se sont intéressés à la Pavane. La première interprétation date du 5 avril 1902. C'est un pianiste qui s'appelle Ricardo Vignes, car l'orchestration de Ravel ne viendra que plus tard, en 1910. Il n'était pas très content de ce morceau qu'il trouvait sommaire. L'influence de Chabrier m'a trop poussé, a-t-il dit à l'époque. Il n'empêche que quand l'orchestration viendra, cette pavane pour un infante défunte qui dure 6 ou 7 minutes, si ma mémoire est bonne, restera évidemment dans la mémoire de tous ceux qui idolâtrent Ravel comme un des moments les plus magnifiques. Voilà, pour faire plaisir à Carole Beffin, nous avons choisi donc l'orchestration de Pierre Boulez avec l'orchestre de Cleveland. Morceau sublime, évidemment, de Maurice Ravel, même si l'auteur lui-même a gardé une partie de sa vie des réserves sur cette composition en deux temps, donc au piano au départ, seul. D'ailleurs, il existe un enregistrement de Maurice Ravel et puis l'orchestration plus tard. Voici Sorge. George Benjamin, qui est le plus grand compositeur anglais actuel de musique classique, et voici ce qu'il dit de Ravel.
Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur compositeur pour piano que Ravel. Je le mettrai au même sommet que Chopin. Vraiment, les compositeurs piano, Beethoven, évidemment, ces sonates sont des chefs-d'œuvre inouïs. Mais ce n'est pas comme un compositeur de piano moderne comme Chopin. Liszt, mais c'est moins bien, à mon avis. Debussy, bien sûr. Mais Ravel, son écriture pianistique, j'ai pas de mots, c'est du vrai pur piano. Sa façon d'écrire la figuration, une chose qui est très difficile, dont son, laquelle le piano ne sonne pas, est formidable. C'est le grand-fils de Chopin, quelqu'un qui a été capable de faire sonner le piano d'une façon colorée et poétique excessivement rare.
Voilà quel francophone que ce sœur George Benjamin. Il a tout mon amitié, il raconte exactement ce que je pense, et pourtant je n'ai pas du tout le quart du 25e de son talent ni de sa connaissance en musicologie. Voici Charles Trenet, l'âme des poètes, musique du film Bouquet de joie de Maurice Kamm, oublié par tout le monde, sauf par Marc Lambron.
Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 longtemps.
L'immigration n'a pas été le seul thème d'une manifestation baptisée No Kings, pas de roi. David, long barbe blanche et habitué à manifester depuis la guerre du Vietnam, en veut aux alliés de Donald Trump.
La Cour suprême a fait de lui un roi. Ça me fâche énormément. Il a juste à demander à la Cour suprême et il le laisse faire.
Denis porte avec une quinzaine d'autres manifestants une banderole clamant « Nous sommes la Constitution », une Constitution que le président ne respecte pas selon lui.
C'est comme si la loi ne s'appliquait pas à lui. Il s'offre une parade pour son anniversaire, ça va nous coûter 45 millions de dollars.
La manifestation s'est déroulée dans le calme, mais la fin de journée a encore une fois été plus tendue. Le couvre-feu est toujours en vigueur dans le centre de Los Angeles.
Manifestation également à Salt Lake City, dans l'Utah, où des affrontements ont eu lieu entre manifestants et les forces de police. Une personne a été gravement blessée. Emmanuel Macron attendu cet après-midi au Groenland. Visite de quelques heures seulement, mais un arrêt très symbolique sur la route qui le mène ensuite au Canada pour le sommet du G7. Le président entend marquer la solidarité française et européenne vis-à-vis de ce territoire autonome danois que Donald Trump menace d'annexer. Emmanuel Macron veut envoyer un signal fort en faveur de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières. Louise Baudet.
Au Groenland au moins, Emmanuel Macron sait qu'il est attendu. Impuissant à peser sur le cours des événements au Moyen-Orient, le président français se rend dans le territoire arctique parce qu'il y est invité et il y sera certainement bien reçu. Aux antipodes de l'accueil glacial réservé fin mars au vice-président américain J.D. Vance et à sa femme Usha, privée de courses de chiens de traîneau et d'immersion dans la culture autochtone. Et c'est bien à l'Amérique trumpiste que le message est adressé. Le Groenland n'est pas à prendre et la prédation n'est pas une option. A prévenu cette semaine Emmanuel Macron, premier chef d'État étranger à se rendre sur l'île depuis les menaces d'annexion de Donald Trump, qui veut prendre possession d'une manière ou d'une autre, dit-il, de ce territoire riche en ressources minières et surtout hautement stratégique entre Russie et Amérique, à la croisée des nouvelles routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique. Emmanuel Macron va y survoler un glacier, alors qu'au Groenland, la glace a fondu fin mai 17 fois plus vite que la moyenne. Visite ensuite d'une station hydroélectrique financée par l'Union européenne qui permet à l'île de se décarboner avant un entretien politique à bord d'une frégate porte-hélicoptère avec les premiers ministres groenlandais et danois. Les trois ne se quitteront pas de la journée, précise l'Élysée.
Enfin, alors que les Insoumis et les Verts étaient dans la rue hier pour une manifestation de soutien au peuple palestinien, les socialistes, eux, étaient réunis en congrès à Nancy. Ils y sont toujours d'ailleurs, troisième et dernier jour, avec un discours d'Olivier Faure prévu dans la matinée, peut-être abordera-t-il les rapports avec les Insoumis? C'est un sujet qui fâche au PS. Hier, le député Jérôme Guedj a traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite. Alors, comment trouver sa place à gauche sans compter sur LFI? Laurence Méride a posé la question aux militants.
Béatrice, militante d'Ille-et-Vilaine et soutien de Nicolas Mayer-Rossignol, exige une ligne claire.
N'accepter aucune collision, puisqu'on voit que les collisions avec la France insoumise nous entraînent dans son socle idéologique et rendent notre Parti socialiste flou.
Et pour cela, il suffit de revenir aux thèmes fondamentaux du Parti socialiste pour Marc, venu des Bouches-du-Rhône.
Par exemple, la laïcité, améliorer le service de santé, tout ce qui est nos valeurs propres au Parti socialiste, des valeurs qui ont fait notre gène depuis des années. Et qu'on soit, nous, le grand parti politique qui veut rassembler la gauche.
Oui, il est temps de passer à autre chose, plaide Antoine, Aveyronnais, temps de tourner la page.
Moi, je pense que c'est plus un sujet pour les socialistes, que la rupture est consommée entre les insoumis et les socialistes, assez clairement. Moi, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à des sujets de fond qui ont été abordés, la question de la démarchandisation par exemple qui a été portée par Boris Vallot, l'organisation du parti, la formation des militants et des élus, la présence médiatique des socialistes. C'est là-dessus que je pense qu'il faut passer du temps. de débat, plus que pour ou contre Jean-Luc Mélenchon, qui a un non-débat à mon avis.
Au final, tous prônent le rassemblement en interne afin de s'imposer à gauche et de battre l'extrême droite au municipal et à la présidentielle.
Laurence Mérida, Nancy pour France Culture. La vigilance orange est levée ce matin des Ardennes au Cantal. Le ciel reste couvert et les températures chaudes, il fait entre 17 et 28 degrés ce matin. Vous écoutez France Culture, il est 9h10. Tout de suite, Talmudic avec Marc-Alain Wachnin.
Talmudic. Dans la préface de son livre intitulé en français « Vie politique » et en anglais « Men in Dark Time »,« Des hommes en de sombres temps », Hannah Arendt écrit « Que nous ayons même dans les temps les plus sombres le droit d'attendre quelque illumination et qu'une telle illumination puisse fort bien venir moins des théories et des concepts que de la lumière incertaine, vacillante et souvent faible, que des hommes et des femmes, dans leur vie et leur œuvre, font briller dans presque n'importe quelle circonstance et répandent sur l'espace de temps qui leur est donné sur Terre, telle est l'intime conviction qui constitue le fond sur lequel les silhouettes qui suivent furent dessinées. » Fin de citation. Et parmi ces silhouettes, il y a celle de Walter Benjamin, dont l'œuvre illumine les sombres temps, qui sont encore les nôtres à différents niveaux. Penseur inclassable, à l'œuvre éclatée et multiforme, à la fois critique littéraire, traducteur, essayiste et philosophe, collectionneur et homme de radio, ami de Rilke, Gide, Valéry, Giraudoux, Scholem, Brecht, Adorno, Horkheimer et Arendt, il fut presque ignoré durant sa brève existence, mais est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. De beaux et grands livres, très nombreux, ont déjà été écrits sur cette œuvre. On pense entre autres à l'excellent Walter Benjamin, Une vie dans les textes de Bruno Tackels, paru chez Actes Sud en 2009, aux nombreux travaux de Michael Levy et au livre déjà ancien mais incontournable de Stéphane Moses, intitulé « L'ange de l'histoire », consacré à Rosenzweig, Benjamin et Scholem. Mais il fallait peut-être encore un guide qui nous fasse entrer par une porte dans cette œuvre foisonnante pour découvrir par la suite d'autres portes et affiner notre connaissance de ce penseur. Une porte particulièrement importante, ouvrant sur la question du judaïsme et de la judéité, du lien qui existe chez Benjamin entre le messianisme et le marxisme, double foyer d'apparence contradictoire qui éclaire l'œuvre de ce penseur qui vécut en de sombres temps et qui, à de très nombreux égards, est et reste notre contemporain, un contemporain capital. Ce guide, nous l'avons rencontré en la personne de Jean Cône, qui nous offre ces jours-ci un ouvrage passionnant intitulé « Walter Benjamin » et sous-titré « Une pensée juive entre Moscou et Jérusalem ». Jean Cône, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Jean Cône, vous êtes professeur émérite des universités, docteur en esthétique et sciences de l'art et docteur en sciences de la communication, comédien et metteur en scène, et vous avez beaucoup publié sur le théâtre, l'esthétique et la médiation culturelle. Comment êtes-vous arrivé à Walter Benjamin ?
J'oserais dire naturellement, mais avec un passage détourné. J'ai en réalité découvert Benjamin à la fin des années 60, alors qu'il était pratiquement méconnu en France, un peu plus en Allemagne, mais très peu, et à travers un de ses textes peut-être les plus importants, qui date des années 39 et 40, un texte sur Brecht. Un texte compliqué parce qu'il avait avec Brecht une véritable affinité élective, mais des désaccords profonds sur un plan politique, notamment sur le plan du messianisme, sur le plan de l'intérêt porté à Kafka. Et il avait écrit un essai sur Bertolt Brecht qui avait été publié dans le cadre des premiers textes publiés en français. Dans ce texte, il faisait preuve d'une clarté, d'une lucidité sur la dimension d'écriture de Brecht, sur les pièces, mais peu d'intérêt sur les représentations elles-mêmes. Et j'essaye de montrer qu'en réalité, cette dualité, et il était souvent dans une écriture où il tenait les deux bouts du segment, il parlait très peu de la représentation théâtrale. Alors qu'il avait connu sa première grande histoire d'amour après son mariage avec une révolutionnaire professionnelle qui s'appelle Asia Lassis et à qui il avait dédicacé un de ses grands livres qui est une rupture dans son œuvre, qui est Sens unique et qui était dédicacé à Asia Lassis et qui a fait l'objet de commentaires très négatifs de la part de ses amis de l'école de Francfort.
Alors vous insistez dans votre livre, et c'est votre conclusion, sur le fait que Walter Benjamin est notre contemporain, et vous vous appuyez sur une citation d'Agamben pour nous parler de cette contemporanéité. Je cite « Est contemporain celui qui fixe le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières mais l'obscurité. Seul peut se dire contemporain celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et parvient à saisir en elles la part de l'ombre. » En quoi l'œuvre de Benjamin, Jean Cône, est à la fois lumineuse et nous éclaire aussi sur l'obscurité qui nous entoure, et de quelle obscurité s'agit-il exactement aujourd'hui ?
Marc-Alain, vous avez déjà dans l'introduction et dans cette citation d'Agamben pointé ce qui fait la force aujourd'hui actuelle des textes de Benjamin. Alors je reviens un peu sur cette première lecture qui m'a été offerte à la fin des années 60 et qui, après, s'est poursuivie et à chaque fois, ses éclairs, ses effets sur la réalité de ces sombres temps, pour reprendre la citation d'Anna Arendt, m'a éclairé alors que les textes de Benjamin sont souvent éclairants, mais qu'il faut y apporter une attention, comprendre les références, comprendre d'où il vient, où il va. Et plus peut-être en premier temps, l'idée de contemporanéité, c'était d'affirmer que Benjamin est un contemporain capital. C'est-à-dire qu'il joue encore un rôle fondamental dans notre vision de ces sombres temps d'aujourd'hui, qui sans forcément rappeler les sombres temps dont parle Arendt et dont a souffert Benjamin, sont aussi des sombres temps. Et cette pensée du contemporain capital, je l'ai tirée d'un grand livre qui n'a rien à voir avec Benjamin, qui est un livre de Jan Kott, grand critique littéraire polonais, qui a ouvert tout un espace pour les metteurs en scène à propos de Shakespeare, en montrant que les pièces de Shakespeare, qui ont plus de 4 siècles d'existence, peuvent encore nous faire comprendre les phénomènes de conquête et de maintien du pouvoir politique. Et ce contemporain capital pour les metteurs en scène qu'est Shakespeare, moi je l'ai un peu retrouvé dans les textes successifs de Benjamin. Il ne s'agit pas de les rendre actuels, pas plus qu'il ne s'agit de rendre une pièce de Shakespeare actuelle. Sa portée d'interprétation s'illumine d'elle-même. Et chez Shakespeare comme chez Benjamin, l'époque est entrevue à travers un regard critique, à travers l'obscurité qui se dégage, et c'est là où j'ai pensé que Benjamin était notre contemporain capital. Juste pour argumenter un peu plus que sur cette analogie, sur la portée du texte, les 20 dernières années, qui sont les années où le lectorat français a pris conscience et connaissance de l'œuvre de Benjamin, alors qu'il avait été pratiquement très peu traduit, que même en Allemagne, pendant 15 ans après sa mort, peu de textes critiques sur lui. Eh bien, une des preuves de cette contemporanéité est d'une part la réédition, à l'initiative, j'imagine, de Patrick Boucheron, de son dernier texte sur le concept d'histoire. Et puis aussi par le fait qu'il y a, depuis 20 ans, 3 romans qui sont parus, dont Benjamin est le personnage réel et le personnage de fiction, personnage crépusculaire. Pour les citer rapidement, il y a un premier roman très classique de Bruno Arpaia qui s'appelle « La dernière frontière » où il raconte l'histoire réelle de Benjamin qui croise un républicain espagnol qui lui cherche à se protéger du régime de Franco et à passer la frontière pour aller en France, alors que lui, Benjamin, cherche à aller en Espagne pour pouvoir prendre son billet de bateau pour les États-Unis. Et premier bouquin, roman très classique. Un deuxième qui est...
Alors juste, je rappelle aux auditeurs pour que votre propos soit bien entendu. Benjamin est né en 1892.
Il meurt en 1940 en se suicidant à Portbou parce que il pense être rattrapé par les nazis. Il préfère se suicider. Et donc, c'est cet épisode du passage de la frontière que vous êtes en train d'évoquer.
Absolument, à travers un roman. Et il se suicide avec du cyanure, ce qui n'est pas important, mais dont il avait donné la moitié de ce qu'il possédait à Kessler, qu'il avait rencontré à Marseille, qui lui aussi, comme d'autres, cherchait à traverser la frontière. Et il lui dit « au cas où ». Et donc, ce premier roman, il y en a un deuxième qui est une fantasmagorie, un peu au sens où Benjamin utilisait le terme. La fantasmagorie, c'est une façon d'écrire ou d'évoquer ce qui est de l'ordre de l'illusion et de la renaissance des fantômes. Et puis un troisième livre qui est paru il y a 2 ans, qui est un livre compliqué, mais comme peut l'être parfois un certain nombre de textes de Benjamin, qui s'appelle « Le XXe siècle » et qui est une histoire fictive réelle, celle de 3 intellectuels qui se passionnent pour Benjamin et qui échangent des mails et qui est d'Aurélien Bélanger. La production de ces 3 romans, ainsi que la réédition de ce texte fondamental sur le concept de l'histoire...
Bonjour tout le monde et excellente journée en ce 15 juin. Voici votre horoscope du jour.
Bélier, vous êtes convaincant et votre parole a une grande valeur pour vos proches. Utilisez-la à bon escient.
Taureau, perché sur votre petit nuage, rien ni personne ne peut vous déstabiliser.
Le bonheur, vous êtes en plein dedans.
Gémeaux, votre côté leader prend le relais. Vous allez prendre les choses en main pour enfin clôturer ces dossiers.
Cancer, vous êtes passionné et passionnant. Votre bonne humeur sera au rendez-vous toute la journée.
Lion, vous êtes en forme olympique et votre état d'esprit est parfait.
Vierge, vous êtes au top de votre niveau et vous n'avez rien à envier à personne.
Balance, vous faites votre chemin en étant droit dans vos baskets et vous avez bonne conscience.
Scorpion, une excellente surprise se prépare et va chambouler votre vie.
Sagittaire, utilisez votre sens de l'organisation pour vous dégager un peu de temps libre, vous en avez besoin.
Capricorne, vous êtes bien dans votre peau et vous avez confiance en vous, ça fait du bien.
Verseau, vous êtes aux petits soins avec votre entourage et ils savent vous le rendre, côté relation tout roule.
Enfin Poisson, si vous aviez peur de manquer de compliments, vous allez très vite être rassasié. Belle journée à tous.
Bon dimanche matin sur Fréquence 3.
Avec Réveil 80.
À la recherche d'un paquet de clopes, j'atterris dans pas de pong. Pas de bol pour un paquet de blondes. J'irai dans la zone. Bangkok, stripteaseuse asiatique, massage peu catholique, stripteaseuse asiatique, massage peu catholique.
Body body physical, sex and rock and roll. Body body physical, sex and rock and roll. Body body physical.
années 80 sur Fréquence 3 avec Buzy. Je trouve ce titre génial. Et puis alors en plus, clin d'œil à Christelle qui m'a offert sur une compilation ce titre. Et je vais pas vous le cacher, j'ai redécouvert ce titre grâce à cette compilation. Je peux vous dire que je suis retombé amoureux de ce titre. Fréquence 3, c'est Réveil 80. On poursuit avec AC/DC. Ah bah là on change de style, hein. Voici Back in Black, version live pour vous dans Réveil 80.
C'est comme votre monnaie, c'est précieux. Professionnel, particulier, déposez vos métaux ou votre ferraille chez De Richebourg Environnement et repartez avec un chèque. De Richebourg Environnement à Fossé et Saint-Ouen. Plus d'infos sur derichebourg.com.
Cinéma Le Balzac, des films pour tous. Un mercredi par mois à 14h30, profitez de séances jeunes publics pour les enfants à partir de 3 ans. Des séances suivies d'un atelier gratuit et d'un goûter offert. Cinéma Le Balzac, place Aristide Briand à Château-Renaud. Toutes les dates à retrouver sur notre programme papier ou en ligne. détails sur lebalzac.fr.
Sur Fréquence 3, c'est que de la pub locale.
Que de la pub locale et une rafale de tubes.
Vous aimez le jazz? Ça tombe bien. Vendredi 20 juin à 20h, concert au Cafoton, café associatif de Auton. Avec Sunshine et Jukebox, un duo musical d'une chanteuse de talent, accompagné par un musicien professionnel, multi-instrumentiste, dans un répertoire jazz et de standards bien connus. Alors venez passer un agréable moment au Cafoton le 20 juin à 20h à Auton.
Place à la musique. Le samedi 28 juin, la ville de Château-Renaud vous invite à la 23e édition de Musique au Château, la fête de la musique de Château-Renaud. Avec une belle soirée en plein air et des concerts en live gratuits, musique pop, rock, funk, groove et de la variété. À l'affiche cette année, Kérosène, Ramon et les Cigales, Banda Jules, Station Caméléon et Elora. Rendez-vous samedi 28 juin de 17h à 23h dans le parc du Château à Château-Renaud. Restauration et buvette sur place, fête gratuite offerte par la ville de Château-Renaud avec le soutien de la région Centre et le département d'Indre-et-Loire. Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook Musique au Château.
Nouveau à Vendôme, Alto Expert, l'atelier mécanique pour tous les véhicules. Vidange, freinage, amortisseur, distribution, pneumatique, entretien, climatisation. Faites confiance à notre équipe avec plus de 20 ans d'expertise. Des offres toute l'année et paiement 4 fois possible. Alto Expert, l'atelier à votre service. Route de Paris, RN10 à Saint-Ouen. Contactez-nous au 02 54 82 84 98 pour un devis gratuit.
Pas plus de 2 minutes de pub, promesse tenue.
Sur Fréquence 3,
c'est le retour d'une rafale de tubes dans le Loir-et-Cher.
Quand je me et boue la facette au petit lèvre. C'est Réveil 80 sur Fréquence 3.
Témoignage du passage de Lovro von Matačić à Monte Carlo. C'était Moré Transfiguration de Richard Strauss en 1978. Le tournant des années 80 représente l'entrée dans une nouvelle ère. Déjà, 1978, c'est l'arrivée d'un nouvel administrateur qui jouera un rôle déterminant pour consolider l'existence de l'orchestre. C'est René Croesi. Je vous ai fait récemment une émission sur les métiers de l'ombre dans un orchestre. J'avais commencé par la fonction de directeur général, j'aurais très bien pu citer René Croesi comme l'un de ceux qui ont compté. En 1979 est enfin inaugurée une vraie salle de concert de 1000 places dédiée au symphonique, l'auditorium Régnier III, situé dans le tunnel au pied de l'hôtel Loewes. L'année suivante, 1980, une nouvelle ordonnance princière rebaptise l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, qui prend son nom actuel d'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et la même année, un nouveau directeur musical qui enfin restera un peu longtemps. C'est l'Américain Lawrence Foster qui fera énormément à Monaco, avec pour fil rouge une sorte de mission qu'il s'est fixée, ressusciter la musique de Georges Enesco, une manière pour cet Américain de revendiquer ses racines, puisque Foster est né de Paris. Roumain. On lui doit par exemple le premier enregistrement commercial de l'opéra Édipe avec l'immense José Vandamme.
Adieu, Athénienne.